Frères et sœurs catéchumènes, Arlette, Andy, Maureen, Jean-Joël, Apolline, Nance, Marina et Maxence, c'est à vous que s'adresse en premier lieu les lectures que vous entendez, l'homélie que je vais donner, et nous, les vieux baptisés, on est vieux baptisés à partir d'un an, dès qu'on est baptisé depuis un an, on est vieux baptisés. Les vieux baptisés, eh bien, nous profitons de votre démarche pour être renouvelés dans la foi, dans la grâce de notre baptême et de notre confirmation, et aussi de l'Eucharistie. Voilà, donc, le premier point que je voudrais vous dire, c'est que, voilà, régulièrement, il y a dans l'Église des dimanches où l'Église, bizarrement au premier coup d'œil, disons, insiste sur la joie et propose aux membres, aux clergés, de porter des ornements roses. C'est pas systématique, mais souvent. Et cette insistance est surprenante, mais elle nous rappelle un point très essentiel. C'est qu'un saint triste est un triste saint. C'est-à-dire que ça ne peut pas exister un vrai chrétien qui n'entre pas dans la joie. Évidemment, ce n'est pas une joie superficielle liée au plaisir spontané de notre vie, aux tristesses aussi, aux épreuves que nous pouvons traverser. Cette joie doit avoir une source, doit être implantée au plus profond de notre cœur. Cette joie, régulièrement, l'Église la met en avant, donc je le disais, pendant le temps de l'Avent, pendant le temps du Carême, qui sont des temps de pénitence. Ensuite, on le voit à Noël, à Pâques, dans d'autres fêtes. Et si on va même un peu plus loin, tous les dimanches sont des dimanches de la joie. Où nous sommes invités à re-rentrer dans la joie spirituelle, la joie chrétienne. Donc c'est profond. Et puis, il y a un évangile même qui parle beaucoup de joie, c'est l'évangile de Luc. Si jamais de Saint Luc, vous pouvez le lire, qui est imprégné de cette atmosphère de joie. C'est fondamental, parce que ce témoignage, la vie chrétienne débouche sur la joie. La vie chrétienne a pour fruit la joie. Il y a un deuxième fruit, c'est la paix, qui sont des dons du Saint-Esprit, en tout cas débouche sur la joie. Je ne vais pas développer davantage, mais c'est très important d'avoir conscience que la joie est un élément essentiel du témoignage chrétien et de la vie chrétienne. Et qu'il y a aussi, alors peut-être je vais rajouter ça quand même, qu'il y a aussi un combat pour la joie. Il faut choisir d'entrer dans la joie chrétienne. On peut être chrétien et être très triste, tout à fait possible. Simplement en oubliant de rentrer dans la gratitude, dans l'action de grâce par rapport à tout ce que Dieu peut nous donner, sa présence dans notre vie, au salut qu'il nous donne. Entrez donc dans la joie. Dimanche dernier, nous avons vu, à travers l'évangile donc de la Samaritaine, et puis je sais que certains paroissiens, alors les vieux paroissiens, les vieux baptisés, se sont inquiétés parce qu'ils se sont dit, tiens, on n'a pas l'évangile qui est prévu aujourd'hui. En effet, partout où on célèbre des scrutins, où des catéchumènes se préparent au baptême, eh bien, l'évangile que nous devons lire, c'est des évangiles qui ont été pris depuis l'Antiquité, et qui sont des évangiles de très grande force spirituelle qui permettent d'enseigner les catéchumènes et de les préparer. Et donc, aujourd'hui encore, comme la semaine dernière, et la semaine prochaine ce sera pareil, on change l'évangile et on prend l'évangile qui correspond, c'est l'évangile de l'année A, qui correspond à la préparation des futurs baptisés. Et donc, la semaine dernière c'était la Samaritaine, le Seigneur nous a fait comprendre quelque chose. D'une part, il a soif de nous, il a soif de notre amour, de notre foi, il a soif, et c'est lui le premier qui a soif, c'est lui qui est venu vers nous, c'est lui qui est venu nous chercher, la Bible raconte, et Jésus quand il vient, c'est le Père qui envoie son Fils pour nous chercher, pour nous le dire, j'ai soif, il a soif, et dans la conversation avec la Samaritaine, il dira, donc j'ai soif de ton amour, et il dira, en fait, si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui aurais demandé à boire. C'est-à-dire que là, nous aussi, notre soif, et même si nous n'avons pas soif, le Seigneur peut nous combler de cette eau vive, de cet amour surabondant qui est en Dieu. Il peut nous combler pour que notre cœur devienne source jaillissante, pour que nous répandions autour de nous l'amour, hein, que notre cœur devienne une véritable source. Donc ça, c'était notre premier enseignement du dimanche dernier. Aujourd'hui, c'est la guérison de l'aveugle-né. Oui, le monde est dans les ténèbres. Alors ça, c'est vrai qu'il fait beau, hein, il y a du soleil régulièrement, et pourtant le monde est dans les ténèbres. Certes, pas au niveau de tout ce qui est du domaine de la nature, des fonctionnements de la nature, de la science. Au contraire, on fait des progrès, et c'est bien. C'est pas ces ténèbres-là. Il n'y a pas de ténèbres à ce niveau-là. Hein. Il y a des découvertes progressives, une compréhension du monde. Mais il y a d'autres ténèbres qui se sont installées sur notre monde, dans notre monde, qui fait que ceux qui croient voir ne voient rien. Il faut que Dieu intervienne pour qu'on reprenne la vue, pour que l'on voit vraiment. Et c'est ce que fait Dieu en venant parmi nous. Encore une fois, c'est la Bible qui nous raconte tout ce cheminement où le Seigneur vient donner sa lumière, la vérité des choses invisibles et pourtant tellement concrètes et tellement fortes dans notre vie. Il nous montre une vérité cachée pour beaucoup. Et c'est le don de la foi qui nous donne cette lumière, qui nous donne de voir la lumière. Le monde est dans les ténèbres, et donc il nous faut nous laisser guérir. Alors l'aveugle-né, justement, le Seigneur va intervenir dans sa vie, hein, c'est un symbole, va intervenir dans sa vie pour le guérir et pour lui donner de voir. Il ne voyait pas depuis sa naissance, comme le monde et comme toute personne qui n'a pas encore rencontré Jésus dans sa vie, n'a pas encore croisé Jésus sur son chemin, comme l'aveugle-né croise Jésus un jour dans son chemin et Jésus intervient. Mais pour les vieux baptisés, il faut prendre conscience que aussi comme dans la loi de la nature, on peut voir bien avec nos yeux de chair et ensuite, comme moi, enfin moi c'est pas encore trop grave, mais c'est normal, il paraît. Avec l'âge, avoir besoin de lunettes parce qu'on voit de moins en moins bien, et même parfois certains d'entre nous peuvent carrément perdre la vue. De la même manière, même si nous sommes baptisés, que nous avons déjà vu la lumière, nous pouvons retourner dans les ténèbres et perdre la vue spirituelle. C'est important d'en prendre conscience parce qu'il nous faut, nous, intervenir, il nous faut réagir. Je citerai le pape Benoît XVI qui parle de ce sujet aux vieux chrétiens. L'homme possède effectivement la forte tentation de se construire un système de sécurité idéologique. La religion elle-même peut devenir un élément de ce système, tout comme l'athéisme ou le laïcisme. Mais de cette manière, on reste aveuglé par son égoïsme. Chers frères, laissons-nous guérir par Jésus qui peut et veut nous donner la lumière de Dieu. Confessons nos cécités, nos myopies et surtout ce que l'abîme appelle le grand péché, l'orgueil. Oui, frères et sœurs, il nous faut prendre conscience que nous pouvons nous aussi perdre la vue, qu'il n'est pas normal de porter des lunettes. Alors, je parle spirituellement. Pas normal de devoir porter des lunettes pour aller à l'église, pour prier, pour marcher dans la foi. Le Seigneur doit nous guérir totalement de notre cécité. Et il le peut, si nous le voulons bien, si nous nous laissons faire, nous laissons rencontrer. Je reviens à vous, catéchumènes. La guérison que le Seigneur va faire à cet aveugle-né que vous représentez, eh bien, il va le faire, vous avez vu, Jésus va rencontrer l'aveugle. Il faut le rencontrer, vous l'avez déjà rencontré. Jésus ensuite va discuter avec lui et il va commencer à intervenir. La première fois, la première chose qu'il fait, c'est de la boue et il va, avec de la boue, toucher les yeux de l'aveugle. C'est ce que nous vivons. Les pères de l'Église diront que les rites avant le baptême représentent cette étape où finalement, le Seigneur vous touche, commence à intervenir, commence à vous guérir. Mais pour que la guérison soit complète, il va dire ensuite à l'aveugle, va te plonger dans la piscine de Siloé. Entre parenthèses, pour qu'il y aille, il ne peut pas y aller tout seul. Il a fallu que d'autres autour de lui l'aident. De la même manière, la communauté chrétienne est là pour vous aider à aller jusqu'au baptistère pour recevoir. Et donc, la piscine de Siloé qui va lui rendre totalement la vue, ce sera le baptême. Donc il y a ces étapes préparatoires qui sont manifestées dans cet évangile et suivies du baptême lui-même qui va vous guérir totalement. Les baptisés, autrefois, disaient qu'ils vivaient par leur baptême. Quand on était baptisé, on disait qu'on vivait par le baptême une illumination. On était illuminé. Et on appelait les baptisés des illuminés. Aujourd'hui, c'est une connotation négative. Mais le baptisé est illuminé parce qu'il voit la lumière. Qui est cette lumière? C'est Jésus. Le Christ est la lumière. C'est lui qui brille dans les ténèbres. Sa résurrection va nous le rappeler. Le Seigneur est notre lumière et nous devons suivre cette lumière qui nous guide dans notre vie, dans notre chemin. Il est intéressant aussi de remarquer que dans cet évangile, les pharisiens, ceux qui étaient des sages de la foi juive, eh bien, ils croyaient voir, et c'est le danger pour nous les vieux chrétiens, ils croyaient voir, mais en fait, ils ne voyaient rien. Ils ne voyaient plus rien. Jésus n'a jamais dit qu'ils étaient dans l'erreur totale, mais ils n'arrivaient pas à reconnaître la lumière qu'était Jésus. Ils n'arrivaient pas à l'accueillir comme le Messie, comme le Christ. Ils ne voyaient plus rien. Donc ceux qui croyaient voir ne voient plus, ça termine comme ça cet évangile que nous avons entendu, et ceux qui voient, oui, ceux qui voient ne voient plus, mais ceux qui ne voyaient rien, c'est-à-dire l'aveugle né, lui va finir par voir. Il va voir vraiment. C'est l'inverse. C'est pour ça que les derniers arrivés dans nos communautés, les derniers chrétiens arrivés dans nos communautés, sont souvent ceux qu'il nous faut écouter, parce que c'est eux qui peuvent aussi voir plus clairement la volonté de Dieu. Et donc le Seigneur nous fait prendre conscience de ce paradoxe que nous sommes invités à vivre. Si nous nous reconnaissons aveugles ou malvoyants, pour nous les vieux chrétiens, nous pouvons accueillir la guérison. Par contre, si nous croyons voir trop bien, si nous croyons voir, nous risquons de nous installer dans notre vision des choses et ne pas être capable d'aller plus loin. De la même manière, la foi de cet aveugle-né va progresser. Au début, il ne sait pas qui est Jésus. Après, il dit, c'est un prophète, mais il dit, je ne sais pas bien qui c'est, allez lui parler. Puis ensuite, il recroise Jésus, et là, Jésus se manifeste à lui comme étant le Messie. Et là, il sait, il se prosterne devant lui. Il se prosterne, et la prosternation, au moins spirituelle, est importante. Reconnaître qu'il est le bon Dieu, reconnaître qu'il est le Sauveur. Et donc, il dit, je crois, Seigneur. Voilà bien le cheminement spirituel que nous devons faire, que vous devez faire. Et puis, je veux terminer en vous interpellant, alors, au-delà même des évangiles de ce jour, que cette lumière que nous accueillons, cette vision que le Seigneur veut nous donner, de voir la lumière et de voir le monde comme il est réellement, avec toute la couleur que le Seigneur lui a donnée, la beauté, mais aussi de voir aussi les ténèbres qui y demeurent, eh bien, le Seigneur veut le transformer, veut faire en sorte que cette lumière rentre dans nos cœurs. Au jour du baptême, vous recevrez un cierge avec une flamme. C'est cette lumière qui doit briller dans vos cœurs, désormais. Mais cette lumière que vous allez porter dans vos cœurs, ce n'est pas que pour vous. C'est pour être, vous aussi, lumière du monde. La parole de Dieu le dit. Et donc, il y a une lumière qui doit pénétrer vos cœurs et briller autour de vous, comme pour autour de tout chrétien, normalement. Et puis, il y a même, au-delà, avec la Pentecôte et le don du Saint-Esprit, cette lumière est produite par un feu et il faut, nous devons demander, mais ce n'est pas pour tout de suite, ça va venir, que le feu de Dieu habite nos cœurs et embrase nos cœurs, que nous brûlions d'amour pour Dieu, brûlions de charité, que le feu du Saint-Esprit soit dans nos cœurs. Amen.